en action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
Bienvenue sur le plateau d'Action Logement au Salon des maires et des collectivités locales 2025, dont vous connaissez le thème, le meilleur en commun. C'est évidemment ce qu'on vous propose aussi sur ce plateau. Comme chaque année, vous le savez, Action Logement est présent sur le salon, au plus près des élus, des partenaires, des parties prenantes et des filiales du groupe pour échanger sur les enjeux qui font votre quotidien. Vous l'aurez compris dans ce podcast, la priorité est donc au terrain, à la parole des élus, pour des retours d'expérience et des solutions innovantes, une manière aussi de partager avec vous notre mission d'utilité sociale. Et on va partir avec vous, monsieur le maire Daniel Fabre, dans l'Ain, puisque vous êtes maire d'Ambérieu-en-Bugey. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Noël Pétron, le directeur régional d'Action Logement Service Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va évidemment parler du lien emploi-logement, notamment dans des contextes un peu spécifiques qui sont ceux de votre territoire autour des chantiers EPR et de cette formidable dynamique économique. Mais peut-être, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre commune, quelques instants pour nous parler d'Ambérieu-en-Bugey en mode un peu carte postale.
Oula.
Ouais. À part que c'est la plus belle ville de France, évidemment.
Ah ben ça, voilà. Merci de le préciser, effectivement. Le label est reconnu déjà depuis pas mal de temps. Non, merci déjà de votre invitation. Alors, Ambérieu-en-Bugey, c'est un peu plus de 16 000 habitants aujourd'hui. Géographiquement, sous forte influence déjà entre deux métropoles, la métropole lyonnaise et la métropole genevoise, c'est pas neutre, parce que ça veut dire que, au-delà de ce que l'on va pouvoir discuter dans la suite, on est déjà sous contrainte aujourd'hui. Sous contrainte parce que nous sommes très proches de la métropole lyonnaise. Sous contrainte parce que c'est pas Action Logement que je vais dire des choses sur l'accroissement du prix du foncier, sur la rareté du foncier, sur etc. etc. Et puis un élément qui... vous savez, moi je suis maire d'Ambérieu depuis 2014. Une des premières choses que j'ai dit quand je suis arrivé, la ville d'Ambérieu a une forte culture ferroviaire. Ça a été un nœud ferroviaire depuis que l'activité ferroviaire s'est développée en France. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la ville d'Ambérieu, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née grâce à la gare et grâce à l'activité ferroviaire. Et l'avenir d'Ambérieu s'écrira grâce à la gare et grâce à l'activité ferroviaire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais vendredi dernier avec Jean Castex à Lyon dans le cadre de son Tour de France par rapport à sa prise de fonction récente à la tête de la SNCF. Et pourquoi il était à Lyon vendredi dernier? Parce qu'il voulait faire un focus sur la première liaison TER en termes de fréquentation au niveau de l'Hexagone, la ligne Ambérieu-Saint-Étienne. Parce que si je prends le cas d'Ambérieu, c'est pas loin de 3000 voyageurs par an qui prennent le train à Ambérieu et qui en fréquentation TER. Vous avez bien évidemment la gare de la Part-Dieu. Quand on regarde dans la hiérarchie, si on devait mettre une hiérarchie, la deuxième gare, c'est celle d'Ambérieu. Donc vous voyez déjà qu'il y a déjà des contraintes par rapport à ça. Pourquoi je m'étends un petit peu là-dessus? Parce que ces contraintes-là, elles nous génèrent aujourd'hui, sans parler du projet des EPR, elles nous génèrent aujourd'hui une forte contrainte en termes de logement. Ambérieu-en-Bugey est la ville-centre de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, qui comprend à peu près 80 000 habitants. On a déjà une démographie positive au sein de la communauté de communes qui est de l'ordre de 1500 à 2000 habitants par an, en continu, ces 5 dernières années, et on peut imaginer que ça va suivre le même rythme dans les prochaines années. Donc on est déjà contraint au niveau du logement. On part déjà avec une contrainte, sans parler du projet des EPR dont on pourra développer.
C'est un peu la rançon de la gloire, du dynamisme et de l'attractivité quelque part. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier ou des populations plus demandeuses, plus concernées, vous qui êtes soucieux aussi de l'équilibre de la mixité sociale, est-ce qu'il y a des populations qui sont plus demandeuses ou là où vous avez plus de difficultés sur certains types de logements?
Non, parce qu'aujourd'hui, je pourrais en développer, ça a été l'objet d'une grosse part de mon activité. Hier sur le salon, j'ai profité d'avoir tout le monde sous la main pour
régler des problèmes.
Pour échanger des rendez-vous. Après, je ne veux pas paraître pessimiste et découragé par rapport à tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'extraordinaire chance d'avoir aujourd'hui une activité économique hyper importante avec le parc industriel de la Plaine de l'Ain, qui est le premier parc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à peu près 180 entreprises, de très belles entreprises internationales, presque 9000 salariés. On a déjà ça, on a déjà la centrale du budget. Vont se rajouter demain les EPR, et puis on pourrait encore rajouter la liste. Pour les plus avertis, vous avez pu suivre au mois d'août l'annonce officielle du groupe Safran qui investit dans une usine en Europe, et elle n'investit pas n'importe où, elle investit sur le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Je pourrais aussi citer l'Académie des métiers de l'aéronautique qui va s'installer sur la base aérienne dans Mérieux-en-Bugey, etc., etc. Donc il y a tout un tas de sujets qui font qu'il y a une accumulation de sujets que volontairement, pour ne pas crisper les gens, j'appelle moi des projets d'intérêt national qui se retrouvent concentrés sur un seul et même territoire. Et en fait, la problématique, elle est là. Alors je comprends que ça peut créer certaines jalousies, certaines rancœurs vis-à-vis d'autres territoires. C'est d'une part pour nous, en tant qu'aménageurs temporaires de ce territoire, des contraintes très exaltantes, mais très, très, très compliquées à gérer.
Comment est-ce qu'on peut, d'ailleurs, ça dépasse un petit peu notre sujet, mais je vous entends aussi sur, parfois, cette nécessaire répartition, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont attractifs, du coup, ils attirent davantage. Comment est-ce qu'on fait pour un peu répartir ? Est-ce que ça doit jouer aussi peut-être davantage à l'échelle de l'interco, ou un peu plus que l'interco, en fait ?
Oui. Mais oui, bien évidemment. Bien évidemment. Enfin, là, on nous annonce, j'étais avec le directeur exécutif de la branche nucléaire hier sur le stand EDF, on nous annonce donc un début de chantier, si on veut se focaliser sur les EPR, un début de chantier fin 2027, début 2028. C'est
demain.
C'est demain. Voilà. Avec un premier pic en termes de salariés sur le site, sur le chantier, en 2035 à 8000 personnes. Ça veut dire qu'il y a 8000 personnes qui, avec tout ce que cela peut générer à côté, etc., etc., qui vont être sur le chantier. Alors, ce n'est pas des personnes qui vont s'installer durablement, ils vont être là sur la première phase de chantier, ce que EDF appelle le pré-béton. Donc, en gros, ils ont un terrain de jeu de 200 hectares, ils vont déplacer des tas de terre pendant 10 ans. Je prends un paquet ici, je le mets là, enfin, voilà, tout ce que c'est. Donc, ce seront principalement des gens, des temporaires, des salariés temporaires de ces métiers du BTP. Ils vont arriver le lundi, ils vont arriver le vendredi, ils ne vont pas arriver avec leur famille et tout.
Ceci étant,
mais quand même, mais quand même.
En termes, y compris de circulation,
et dans
le commerce.
Et dans le même temps, et dans la même temporalité, vous allez avoir Safran qui va construire son usine. Aujourd'hui, le groupe Safran nous annonce une mise en service de sa cinquième usine en 2030. Là, au niveau du parc industriel, on est en discussion très avancée avec un groupe français qui va installer un data center d'envergure internationale. Enfin voilà, tout ça se conjugue et tout arrive en même temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout arrive en même temps. Je me répète, je ne joue pas la pleureuse. C'est pas ça le truc.
Non, parce qu'il y a des territoires qui sont en difficulté.
Mais ça veut dire quand même que si on ne s'emprunte...
On a besoin d'être accompagné aussi, peut-être.
Voilà, il y a besoin d'être accompagné, bien évidemment. Et faire en sorte qu'on garde les pieds sur terre et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et ça, notamment pour les citoyens et pour les habitants actuels de la Plaine de l'Ain, c'est un enjeu énorme.
Alors, je me tourne vers vous, Noël Pétrone, parce que vous êtes effectivement là l'interlocuteur concerné pour ce qui concerne cette partie logement et ce lien emploi-logement. Et c'est à la fois, comme l'évoque le maire, une formidable chance et une grande, peut-être, difficulté où voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Comment est-ce qu'on peut accompagner, se réjouir de tout ça et en même temps être prêt pour les échéances qui y arrivent ?
Alors vous avez raison, il faut commencer par s'en réjouir. Hein. Enfin, nous, on fait écho au propos de monsieur le maire et on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises déjà sur ces sujets. Alors c'est effectivement très complexe parce qu'il y a à la fois intrinsèquement le projet des EPR qui est déjà très mobilisateur en termes de réflexion, d'énergie et d'interrogation aussi parfois sur des questions qui, ma foi, relèvent quand même globalement d'aménagement du territoire finalement, puisque on est entre le département de l'Ain, bien évidemment, qui est directement concerné, mais aussi en limitrophe du département du Rhône et de la Côtière.
Et de l'Isère.
Et de l'Isère, bien évidemment. Donc on voit bien que déjà on est à l'articulation de trois territoires qui doivent se parler, devront se parler pour aménager de façon la plus logique possible un projet, en tout cas les conséquences d'un projet qui est labellisé grand chantier aujourd'hui et qui donc va drainer des interrogations d'élus dans un contexte d'élection municipale puis présidentielle, hein, qui plus est. pour adjoindre un tout petit peu une dose de complexité au sujet, et puis qui vont amener des mobilités de salariés en milliers de salariés, monsieur le maire le rappelait à l'instant, avec des grands donneurs d'ordre sur ces questions-là. Et puis effectivement, complexité aussi, au-delà de ce projet en lui-même, parce qu'il va venir se cumuler, pour pas dire se télescoper, avec d'autres projets d'envergure qui vont permettre, alors certes, aux territoires concernés et par voie de conséquence à la région, de tirer un peu toute la lumière sur la confirmation du dynamisme de notre région finalement, mais qui vont venir télescoper des mobilités de salariés et donc demander aux élus et aux acteurs concernés de bien prévoir l'aménagement de tous les éléments d'équipement dont on parle assez peu finalement, mais qui sont une vraie problématique dans l'esprit des élus. Et puis pour ce qui nous concerne, nous, très directement Action Logement, bah être très très en amont dans les réflexions sur les questions justement relatives à comment on accompagne ces salariés de différents segments finalement, parce qu'il y aura des salariés qui vont être là 3 jours par semaine, d'autres 5, certains qui vont arriver, qui vont tomber amoureux du territoire et qui vont plus en repartir et qui vont y faire venir leur famille. Donc on voit bien qu'on devra répondre à différents degrés aussi de besoins après avoir répondu, en tout cas, ou avoir contribué à la réponse de l'enjeu du nombre de salariés. Donc, exaltant. Hein.
Il y a une vraie diversité et une nécessaire adaptation avec tous les outils mobilisables.
Absolument. Alors, de notre côté, oui. Et puis, d'ouverture vers les bailleurs sociaux, en tout cas ceux qui vont porter les projets demain, quels qu'ils soient, pour voir comment on peut les accompagner. Tant en termes de réflexion, d'implantation dans le décor, en quelque sorte, et puis pour certains d'entre eux, comment on peut les accompagner financièrement. Et complémentairement à cet aspect de financement de la production d'offres nouvelles, comment on continuera de se positionner comme un facilitateur des aides et des services à destination des salariés eux-mêmes.
Comment on fait pour accompagner le maire dans ces cas-là ? À qui vous vous adressez ? Quels sont les partenaires dont vous avez besoin ? Et quelles sont vos demandes aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais ça me semble bien. On parle même de la région, oui. Je suppose que la région est mobilisée aussi quand même.
Oui, la région est mobilisée. Après, chacun doit intervenir au titre de ses compétences. Donc, aujourd'hui, on a trois gros sujets qui sont identifiés. Effectivement, c'est le logement, c'est clair. Et je le dis d'autant plus, je mets vraiment en tête de priorité, en tête de gondole, parce que aujourd'hui, sans le projet SEPR, on est déjà carencé en termes de logement. On ne fait pas exception au marasme immobilier qu'il peut y avoir au niveau national. Vous avez évoqué les bailleurs, monsieur patron, mais on est vraiment pas exception par rapport à ça. Donc on a déjà un déficit, donc on part quelque part avec un premier boulet. La deuxième priorité, ça va être la mobilité. Le site, pour ceux qui connaissent, mais même s'il y a une autoroute qui n'est pas très loin, elle est quand même à 25 km. Il va falloir amener les salariés sur place, etc., etc. Donc vous avez évoqué le fait que ça ne concernait pas que la plaine de Lens, mais ça veut dire aussi qu'on est obligé de. On va être obligé de construire un pont qui va enjamber le Rhône pour pouvoir irriguer le Nord-Isère. Donc là on est sur une compétence différente, hein, c'est le département qui va gérer ça. L'État aussi va, puisque je pense que ça va accélérer un projet qui était déjà dans les cartons, mais qui va arriver très très vite, qui est la création d'un nouvel échangeur au sud d'Ambérieu, sur l'autoroute A42. Là, on est sur une compétence purement État. Donc on voit bien que rien qu'en citant...
C'est un grand puzzle. Hein.
Oui, rien qu'en citant ces trois sujets, on voit bien la pluralité des acteurs et comment on fait que demain, quand je dis demain, je le rappelle, j'insiste parce que... J'étais avec le maire de Chinon juste avant de venir ici, qui sera peut-être, en tout cas c'est ce qu'il espère, concerné par la future tranche donc, voilà, des EPR. Début du chantier 2028. On est en fin d'année 2026. Il faut juste remettre ça en adéquation avec les défis qui s'annoncent devant nous. Donc voilà, après, le troisième sujet, c'est la formation. Aujourd'hui, sur la ville d'Ambérieu, on est plutôt pas mal. On a deux lycées, on a un centre de formation d'excellence avec le SECOF. Par contre, par rapport à la filière nucléaire, donc il y a une première action qui a été faite. J'ai réussi à faire labelliser le lycée Alexandre Bérard à Ambérieu, qui est un des deux lycées publics, par l'Académie des métiers du nucléaire. Donc c'est une première étape. Il y a l'Université Lyon 1 qui arrive à partir du mois de janvier, là, à travers un truc assez intéressant qui s'appelle Link Cloud Campus, qu'ils ont déjà développé dans notre ville, notamment à Hambourg et à Grenoble aussi. Donc ils arrivent au sein du lycée là, avec des premières formations à variante ou à coloration nucléaire. Donc voilà, les choses se mettent en place. On va manquer très fortement, très rapidement de formation Bac plus 2, Bac plus 3. Ça c'est dans l'immédiat, dans les 2-3 ans qui viennent. Il faut absolument que ce soit mis en place. Et le premier sujet qui me préoccupe et qui nous préoccupe au niveau du territoire et qui a occupé là, une grosse partie de mon agenda hier, c'est la création de logements étudiants. Mais on s'aperçoit que plus on avance, et tous les jours qui passent, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Lundi, on est jeudi aujourd'hui. Lundi, j'avais un rendez-vous qui était calé avec le directeur de l'hôpital privé d'Ambérieu et qui me dit oui, soucis, déserts médicaux, enfin, etc., etc. Il me dit il y aurait une possibilité avec la gare, on revient à la gare, il y aurait une possibilité de pouvoir attirer des jeunes internes à l'hôpital. On en a besoin. Ils sont à Lyon, ils sont à la clinique du parc, ils sont, etc., etc. Ils sont prêts à venir sur Ambérieu, sauf que quand ils font des gardes, et il faut qu'ils puissent se loger. Aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de se loger. Vous voyez, vous parliez de diversité de l'offre à mettre en place. Moi, on se serait vu la semaine dernière, je vous aurais dit, oui, on va mettre en place des formations Bac plus 2, Bac plus 3. Donc ça veut dire une population de jeunes, 20, 21 ans, 22 ans, avec des problématiques d'étudiants. Ok, pas de soucis, ça on sait gérer, il y a des gestionnaires qui savent faire, c'est pas un problème. Mais là, depuis lundi, c'est rajouté une autre truc. On parle d'une nouvelle population qui est susceptible d'arriver et qui devra arriver. 8000 salariés qui vont arriver, c'est pas neutre. Ils vont être comme vous et moi, de temps en temps, quelques petits soucis de santé, etc. Il va falloir pérenniser cette offre de santé. Sauf que là, on s'adresse à des jeunes qui ont 30, 32, 33 ans, pour certains qui sont déjà rentrés dans la vie familiale, qui ont déjà composé une famille, et on ne peut pas les loger dans les mêmes conditions et concomitamment à des jeunes étudiants. Et pourtant, c'est à notre âge, on les considère comme des jeunes. Mais vous voyez que cette diversité-là, on rentre déjà dans le détail. Mais on est obligé de rentrer dans le détail si on veut répondre à l'offre.
C'est aussi pour ça, alors on n'aura pas la solution, mais c'est aussi pour ça qu'on tenait à vous avoir, pour montrer que sur ces sujets, même quand c'est une chance, même quand il y a une dynamique, c'est des moments excessivement complexes. Et on espère que face à l'explication que vous avez donnée, le message sera aussi entendu. Et en tout cas, on souhaite l'énergie nécessaire pour avancer avec les partenaires et tous ceux que vous avez évoqués. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci, Noël, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle continuité de salon et je vous rappelle que ce sera diffusé sur Radio Immo et Radio Territoria. Belle journée. Au revoir.
Merci à vous.
En action pour le logement abordable et durable. À l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2025, Action Logement donne la parole aux élus locaux.